Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous multiplient la grâce et la paix. Heureux de vous retrouver à l'écoute. Merci pour votre fidélité et un grand merci à toutes celles et ceux qui nous apportent leur soutien par leurs prières, leurs dons et leurs témoignages. Ce jour, je vous propose une réflexion sur un sujet qui plonge certains chrétiens dans une réelle perplexité, d'autant plus que leur seul désir est de donner aux Écritures, à la Bible, l'autorité qui s'impose. Alors la question est la suivante. Des femmes peuvent-elles exercer la fonction de pasteur? Serait-ce une anomalie, comme le prétendent certains? Mon propos n'est pas de déclencher une polémique, encore moins une guerre de clochers. Je précise ceci. Pendant un temps assez long, il est vrai, j'ai aussi déclaré qu'une femme pasteur était une situation contraire à l'enseignement de l'Écriture. Ma certitude reposait sur un seul texte. Je cite 1 Timothée chapitre 2, verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. » Mais devant l'évidence que Dieu a qualifié et béni des femmes dans ce service, et qui dit qualifié, dit d'abord appelé, je me suis penché de plus près sur le sujet que je partage avec vous ce jour. Au psaume 68, verset 12, David déclare ceci. Le Seigneur prononce une parole, les messagères de bonnes nouvelles forment une troupe nombreuse. Les évangélistes, je fais référence ici au ministère de la parole, les évangélistes apportent la bonne nouvelle. Doit-on limiter le ministère des femmes à la seule annonce de l'Évangile ou à la fonction de monitrice de catéchisme? La notion de qualifié, sous-entendue par le Seigneur, est indissociable d'envoyé. Jésus, dans la prière sacerdotale, dit « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. » Jean chapitre 17, verset 18. Si appelé, alors qualifié. Si envoyé, alors accompagné. Je lis Marc chapitre 16, verset 20. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. La personne que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et son service porte les bons fruits de l'Évangile. Dans un post sur Facebook, le pasteur Franck Le Filâtre a écrit ceci, je cite, « Les femmes occupent une place de valeur dans l'Évangile de Jean. C'est sur elles qu'il s'appuie pour relater des événements importants de la vie de Jésus et affirmer des vérités théologiques majeures. C'est d'abord Marie, sa mère, lors des noces de Cana, qui est à l'origine du premier signe. » Jean chapitre 2. Puis la Samaritaine, la première à envisager sa messianité. Jean chapitre 4. Les deux sœurs de Béthanie, au moment de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Les mêmes encore, lors d'un repas dans leur maison, au début de la semaine pascale. Jean chapitre 12. Et enfin, le témoignage de Marie de Magdala, rencontrant la première, Jésus ressuscité. Et si le temps était venu, que le Seigneur nous parle encore par des femmes? Deux études proposées, l'une par George Wood, superintendant général des Assemblées de Dieu aux USA, docteur en théologie pastorale, et l'autre par Craig Kinner, universitaire nord-américain et professeur de Nouveau Testament à Asbury Theological Seminary, ces deux études m'ont servi à examiner le sujet en élargissant ma vision à l'ensemble de la Bible. Et à celles et ceux qui en font la demande, je propose de vous envoyer ces études par mail. George Wood explique ceci. Le Nouveau Testament lui-même nous sensibilise à la manière par laquelle l'Église primitive résolvait des sujets de débat difficiles lorsque les textes bibliques paraissaient se contredire. La compréhension du texte prenait du sens avec leurs expériences vécues, conduites par l'Esprit. Et à propos d'expériences vécues, George Wood raconte, je cite, « J'ai passé quelques-unes de mes jeunes années dans le nord-ouest de la Chine. Les femmes s'asseyaient d'un côté de l'église et les hommes de l'autre. À cette époque, le niveau d'éducation des femmes était considérablement plus bas que celui des hommes. Les femmes mariées interpellaient leurs maris assis de l'autre côté de l'église pour leur poser des questions sur ce qui était dit ou fait pendant la réunion. Cette expérience m'a aidé à remettre dans son contexte la réprimande de Paul sur le fait que les femmes doivent rester silencieuses dans les églises et qu'elles doivent poser leurs questions à leur mari à la maison. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 et 35, 1 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. Indéniablement, il ne leur avait pas interdit de s'exprimer dans le contexte de la prière ou de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 et 5. George Wood poursuit, je cite, « Mon expérience m'a aidé pour ma compréhension du texte. De même, cela n'a pas été différent à propos du problème des femmes dans le ministère. Ma mère a été ordonnée par les Assemblées de Dieu des USA en 1924, comme l'ont été de nombreuses femmes dans ces années-là. J'ai grandi écoutant ma mère et d'autres femmes prêcher l'Évangile. Sur quoi se basait-elle pour agir ainsi ? Le Saint-Esprit les avait appelées à la lumière de la promesse prophétique de Joël, chapitre 2, versets 28 à 30, accomplie dans Actes, chapitre 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, Dieu déversera son Esprit sur toute chair, incluant aussi bien filles que fils dans la prophétie, et aussi bien femmes qu'hommes dans le service, ministère de la parole. Fin de citation. Lorsque nous voulons nous laisser éclairer par la parole de Dieu, nous devons toujours placer chaque texte dans son contexte, sans oublier pour cela le cadre socio-culturel dans lequel il a été écrit. Comme nous l'avons fait avec mon ami le pasteur Calzada, à propos du texte suivant, Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'analyse herméneutique de ce verset a été présentée lors de la première venue de Paul Calzada sur notre antenne. C'était en mai 2016. Le texte et l'écoute en replay sont disponibles sur le site internet de FM Évangile, onglet émission, rubrique Paul Calzada, titre Interview. Revenons au sujet abordé ce jour. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. Ces consignes données par Paul à Timothée se déclinent en trois prescriptions. La femme ne doit pas enseigner, prendre de l'autorité sur l'homme et se taire dans l'Église. Paul justifie ces consignes en disant « Adam a été créé le premier. La femme cédant à la tromperie, a désobéi à l'ordre de Dieu. Et arrive le verset 15, je cite, « Cependant, la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté, avec modestie. » Bien-aimé, lequel d'entre nous parmi les évangéliques dira, se fondant sur ce seul texte, que pour être sauvée, une femme doit enfanter? Impensable! La doctrine du salut, en aucun cas, ne peut reposer sur ce seul texte. La version top dit « Cependant, elle sera sauvée par sa maternité ». La version second 21 dit « Elle sera sauvée à travers sa descendance ». En fait, Paul fait allusion au passage de Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu dit au serpent « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Christ est la postérité de la femme. Dans Galates chapitre 4, verset 4, Paul écrit ceci « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Je l'ai aussi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Une étude bien fournie a été diffusée sur notre antenne. Le texte et l'écoute en replay sont disponibles sur le site web de FM Évangile 66, onglet émission, auteur Elios Miquel, les jeudis, sous le titre « À propos du salut ». La question de la maternité de la femme comme source de salut étant éclaircie, passons à la question du silence. Paul se contredit-il quand il donne aux Corinthiens des consignes pour régler divers problèmes qui ont secoué l'Église locale? Je lis 1 Corinthiens chapitre 11 verset 4. « Mais que toute femme qui prie ou prophétise, je répète, qui prie ou qui prophétise, tête nue, fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Ici, nous sommes dans une réunion de l'Église. L'instruction concerne la femme qui prie ou prophétise. La prière peut être silencieuse. À la manière d'Anne, la future mère du prophète Samuel, demandant un fils à l'Éternel dans le sanctuaire situé à Silo. Une précision nous est donnée quant à l'expression de sa prière. Anne parlait en elle-même. Seules ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie l'a prit pour une femme ivre. La prière peut être exprimée à haute voix ou silencieuse, en public ou en privé. Mais une femme qui prophétise ne peut le faire silencieusement. Car prophétiser, c'est parler aux autres de la part de Dieu, comme le souligne l'apôtre Paul au chapitre 14 de 1 Corinthiens et au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Et cela doit se faire avec une voix audible et compréhensible. Dans ce même chapitre, au verset 35, Paul écrit « Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. » Alors, contradiction ? Non, mais situation différente. Elles n'ont pas à parler en dehors de la prière ou de la prophétie. Elles n'avaient pas voix au chapitre. Cela venait de la différence du niveau d'instruction qui existait entre hommes et femmes. et il y avait beaucoup d'illettrés, plus encore chez les femmes que parmi les hommes. Après la pause musicale, nous recenserons les compagnons de service que Paul mentionne. Restez avec nous.
Mon âme retourne à ton repos, car tu appartiens à l'Éternel. Mon âme retourne à ton repos, car tu appartiens à l'Éternel. Retourne à ton repos, mon âme, car tu appartiens. Jésus qui s'est donné à Golgotha. Oui, je suis.
Comme le souligne Craig Kinner, cité en début d'émission, un certain nombre de collaborateurs de Paul étaient des collaboratrices. Le chapitre 16 de la lettre aux Romains nous en livre un petit aperçu. Qui connaît Phoebé ? Pour ma part, j'ai récemment rencontré une femme de qualité qui porte ce prénom. Paul la présente en qualité de diaconesse. Romains 16, verset 1er. Version seconde 21, je vous recommande notre sœur Phoebé qui est diaconesse de l'église de Sancré. Le mot diaconesse est traduit par « qui est au service de l'église de Sancré » dans la version Bible en français courant. Cela correspond à une responsabilité administrative, mais pas que, car Paul emploie cependant souvent ce terme pour parler de tout serviteur de la parole de Dieu, y compris de lui-même. Nous retrouvons ce terme dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 4. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses. Nous avons encore Éphésiens chapitre 3 verset 7. je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. Et encore, en chapitre 6, verset 21. Tichique, notre cher frère et collaborateur fidèle au service du Seigneur. Autre, collaboratrice de Paul, Prisca ou Priscille. Romains chapitre 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ, ou selon les versions, saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail au service de Jésus-Christ. Puis viennent, dans la liste des compagnons de service, deux noms que Paul mentionne comme étant deux de ses co-apôtres, bien moins connus que Barnabas ou Silas. Je lis, Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi, version Tob. Junias, une véritable découverte pour moi. Craig Kinner explique, je cite, Junias est clairement un prénom féminin, mais certains écrivains le nient en excluant l'idée que Paul ait pu faire référence à une femme apôtre. Junias serait donc en fait une contraction du masculin Junianus. Cependant, cette contraction n'existe pas et a même été récemment écartée comme une impossibilité grammaticale en latin. Cette suggestion ne repose pas sur le texte lui-même, mais entièrement sur le présupposé selon lequel une femme ne saurait être apôtre. Fin de citation. La lettre aux Philippiens est transmise en retour par Épaphrodite, qui avait apporté leur don à Paul pour le soutenir dans ses besoins. Et dans cette lettre chargée de remerciements, de recommandations et d'encouragements à destination des croyants de l'Église, Paul fait mention de deux femmes, Évodie et Syntyche, qu'il désigne comme ayant été des collaboratrices. Je lis, « Et toi, compagnon véritable, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont lutté avec moi pour l'Évangile, en même temps que Clément et tous mes autres collaborateurs, dont les noms figurent au livre de vie. Et si le temps était venu que le Seigneur nous parle encore par des femmes, comme le suggère le pasteur Franck Le Filâtre, cité en début d'émission, nous avons pour certains encore des choses à apprendre et du chemin à faire, sans sortir de l'enseignement de l'Écriture. Le pasteur Antonio Antomarchi, qui a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle, après plus de 50 ans d'études de la Bible, a déclaré « Je n'ai fait qu'effleurer le bord de l'océan de l'amour de Dieu. » Cet homme a été en bénédiction à un grand nombre par l'enseignement dispensé oralement et dans ses écrits. Son premier contact avec l'Évangile et sa conversion à Dieu qui a suivi sont le fait d'une femme de l'armée du salut prêchant sur Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Alléluia! Cette rencontre, programmée par la providence de Dieu, s'est faite alors qu'Antonio Antomarchi était en chemin pour se suicider. Bien-aimé, le code civil français n'autorise pas la polygamie. Seriez-vous choqué si en citant l'Écriture je vous disais que Dieu ne la condamne pas? Mon propos n'est en rien de choqué, mais simplement de susciter une réaction t'amenant à la réflexion. Je lis 2 Samuel chapitre 12 versets 7 et 8. Nathan déclara alors à David, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ces femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. David avait plusieurs femmes et des concubines. Ce qui lui est reproché, c'est le vol de la femme d'Uri, l'un de ses vaillants guerriers, et son assassinat sur ordre. Ensuite, voyons maintenant la réponse de Jésus à une question piège. Je lis Matthieu chapitre 19, verset 4 et suivant. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Réplique des pharisiens. « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme que l'on renvoie ?» Réponse de Jésus. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Le plan de Dieu est bien le couple. Un homme et une femme, à l'image du Christ et de l'Église. Fermez le banc, comme disent les militaires. Des choses à apprendre et du chemin à faire. C'est un parcours que l'apôtre Pierre, entre autres, a suivi, instruit par le Seigneur lui-même. Nous en parlons après la pause musicale. Restez avec nous.
Peu importe si je n'ai plus rien, peu importe si demain j'ai faim, car plus tard, comblé de bien, rassasié, je serai bien. La vie est dure, remplie d'épreuves, sous un déluge, et bien qu'il pleuve, ma frêle esquisse poursuit sa route, avec sa force et chassant le doute. N'aie pas peur, les jours bonheur éloigneront les jours douleur. Le soleil brille après la pluie, souris, l'amour resplendit. Jamais seul Dieu avec nous, il nous console, nous tient debout. Qu'importe l'épreuve et la douleur, notre Seigneur comblera ton cœur. Il essuiera toute larme. Tout cela finira bien un jour.
En sa qualité de disciple et d'apôtre, Pierre a passé 3 années aux côtés de Jésus, étant nourri de son enseignement. De plus, parmi les 12, il a vécu des événements exceptionnels, tel le temps sur la montagne lors de la transfiguration de Jésus. En fin de stage, avant l'ascension de Jésus, une feuille de route leur est donnée. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. L'étape de l'officier romain nommé Corneille révélera ceci. Pierre n'a pas pleinement compris le plan de salut de Dieu pour les hommes, en toute bonne foi. Mais Dieu veut que tous les hommes sans aucune distinction de nation, de tribu, de peuple ou de langue, soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Mais la conclusion est heureuse. Pierre a appris. Voici ce qu'il dit pour se justifier auprès des croyants d'origine juive. Actes chapitre 11, verset 17. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Un petit flashback pour en arriver là. Concernant la nourriture, il a entendu ceci. Je lis Marc chapitre 7, verset 18. Jésus leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur ? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Mais quand le Saint-Esprit le prépare à recevoir la sollicitation de Corneille, avec la vision de la nappe descendant du ciel et contenant toutes sortes d'animaux, à l'ordre « tue et mange », que répond-il ? Actes chapitre 10, verset 14. « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » En réponse, il entend « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Et Pierre entrera chez un incirconcis et verra la gloire de Dieu. Alléluia! Sur notre site web, vous pouvez aussi retrouver, dans la rubrique émission du jeudi, une étude intitulée « À propos du salut » et une autre intitulée « Ne pas manger du tout ». Comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus possède un service bien supérieur et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Ainsi, comme le souligne l'apôtre Paul, je lis, Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce texte met en exergue trois antinomismes culturels majeurs, juif et païen, esclave et libre, puis homme et femme. En Christ, on trouve des rachetés, tous devenus fils et filles de Dieu. Sur le plan du salut, tous égaux, car bénéficiant de la même grâce. La conséquence de cette réalité, c'est que circoncis et incirconcis, égaux en Christ, apprennent à vivre ensemble. Le Concile de Jérusalem, relaté dans Actes chapitre 15, a posé des bases saines pour cela. Et il a fallu prendre en compte les réticences socioculturelles. Aux Galates, troublés par des déclarations contraires au plan de salut de Dieu, l'apôtre Paul écrira ceci. Galates chapitre 6, verset 15. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Malgré cette égalité des rachetés, à cause du contexte socio-culturel relatif aux esclaves, Jésus a posé des bases relationnelles entre maître et serviteur, sans militer contre l'esclavage. Il a utilisé ce fait de société dans la parabole dite du serviteur impitoyable. Matthieu chapitre 18, verset 25. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Dans une autre circonstance, Jésus a dit ceci. Jean chapitre 8, verset 35. L'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Par cette parole, il rappelle les dispositions de la loi de Moïse. Les voici. Deutéronome, chapitre 15, verset 12. Si l'un de vos compatriotes hébreux, homme ou femme, doit se vendre à vous comme esclave, il vous servira pendant 6 ans. la septième année, vous lui rendrez sa liberté. Deutéronome, chapitre 15, verset 18. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Comme le fait remarquer George Wood, aucun évangélique ne s'appuierait sur ces textes pour promouvoir l'esclavage. Grâce à Victor Schoelcher, le 27 avril 1848, l'esclavage a été juridiquement aboli en France et dans ses colonies. Le temps me manque pour parler du port du voile qui, pour couvrir la tête, doit cacher les joues. Alors pour conclure, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou prendre autorité sur l'homme, elle doit garder le silence. Les Écritures ne se contredisent pas, mais se complètent. Question, ce verset est-il une instruction spécifique à une situation précise dans un contexte particulier, ou bien cela est-il en rapport avec le couple? Je crois qu'il y a plus important en relation avec les porteurs de la parole que de focaliser sur le genre du messager, homme, femme. La question essentielle, quel est le message délivré? Car le messager envoyé de Dieu rapporte fidèlement la parole de Dieu. Mais ceux que Dieu ne mandate pas, qui ne sont donc pas qualifiés par lui, sont des dangers publics. Exemple, le trouble semé chez les chrétiens de la Galatie. Et il y a aussi les gens ignares et sans formation, dont l'apôtre Pierre déclare qu'ils tordent le sens des Écritures, cela pour leur propre ruine et de ceux qui les écoutent. Je répète, ils tordent le sens des Écritures, cela pour leur propre ruine et de ceux qui les écoutent. De même, l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, précise ceci. Certains se sont égarés dans des discours creux. Ils prétendent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Ce sont de vains discoureurs. Leur enseignement est comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Il est essentiel de contrôler la véracité du message, car il affecte notre foi, plutôt que de perdre son temps à discuter sur le sexe des anges. Et si le temps était venu que le Seigneur nous parle encore par des femmes, comme le suggère le pasteur Franck Le Filâtre, cité en début d'émission, Dieu a qualifié et béni des femmes dans ce service, et qui dit qualifié, dit d'abord appelé, puis envoyé et accompagné. Les fruits portés sont bien ceux de l'Évangile. Alors, réjouissons-nous et donnons gloire à Dieu en nous souvenant de cette parole du Seigneur. Matthieu chapitre 9, verset 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen.